Laudetur Jesus Christus.
Recep Tayyip Erdogan, le président turc, fait fi des pressions occidentales. Il poursuivra son offensive contre les Kurdes jusqu'au bout dans le nord-est syrien. Les tirs de missiles, les combats au sol ont poussé au moins 160 000 personnes à fuir la frontière et avec eux, de nombreux personnels d'ONG ont craint une crise humanitaire. Carrie Lam bousculée dans l'hémicycle ce matin, la chef de l'exécutif de Hong Kong renonce à prononcer son discours de politique générale à l'Assemblée, un discours attendu après des mois de manifestations qui ont plombé l'économie de l'ancienne colonie britannique. Un accord de divorce à l'amiable entre Londres et Bruxelles est encore possible. Il pourrait même être présenté demain aux dirigeants européens après des concessions londoniennes. Et puis enfin, le projet de révision des lois de bioéthique a obtenu le feu vert des députés français en première lecture hier. Dans notre dossier, le secrétaire général de la Conférence des évêques de France revient sur les transformations de la société induites par cette proposition de réforme.
Le journal Marie Duhamel.
Bonjour à tous. Le président Erdogan droit dans ses bottes. Il poursuivra donc son offensive lancée la semaine dernière contre les forces kurdes présentes dans le nord-est syrien. Ni les sanctions américaines ni la visite imminente des vice-présidents et secrétaires d'État américains ne le pousseront à déclarer un cessez-le-feu, assure-t-il. Sur le terrain, la situation est de plus en plus difficile pour les civils et ceux qui leur viennent en aide, à commencer par les ONG, Olivier Bonnel.
Oui Marie, face aux avancées de l'armée turque, la situation humanitaire devient préoccupante. Les ONG présentes dans la région arrivent de moins en moins à faire leur travail. Médecins sans frontières, par exemple, qui a dû rapatrier toutes ses équipes internationales, explique que la nature imprévisible et changeante de la situation actuelle l'empêche de négocier un accès sûr pour apporter des soins et fournir une assistance humanitaire aux populations en détresse. La sécurité du personnel humanitaire n'est plus assurée. C'est tout un réseau de structures sanitaires patiemment mises en place ces dernières années qui est en train d'être cassé, regrette l'ONG. Autre crainte des organisations humanitaires, Marie, alors que l'armée syrienne avance également dans la région, qu'elle soit obligée à l'avenir de s'enregistrer à Damas pour pouvoir travailler alors que dans cette zone kurde, leur présence était jugée illégale par le régime syrien. L'UNICEF continue de son côté à soutenir l'aide humanitaire dans le camp Al-Dal-Ol où vivent 64 000 femmes et enfants, mais ne cache pas non plus son inquiétude devant l'avancée des combats. Plus de 800 000 personnes ont besoin d'aide humanitaire dans cette région frontalière turco-syrienne, selon les Nations Unies.
Merci Olivier Bonnel. Et puis après la France, le Royaume-Uni, encore l'Espagne, le Canada a décidé de suspendre ses ventes d'armes à la Turquie hier soir. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir à nouveau aujourd'hui pour évoquer l'offensive turque. Et on vient de l'apprendre, le président russe allié de Damas a invité son homologue turc au Kremlin dans les jours qui viennent. À Hong Kong, Carrie Lam empêchée de prononcer son discours de politique générale. Arrivée au Parlement, elle a tenté à deux reprises de s'exprimer, n'a eu le temps que de rappeler les divisions minant la société hongkongaise avant d'être huée, chahutée par les parlementaires. La chef de l'exécutif a donc renoncé ce matin à son allocution, pourtant très attendue, après un été de manifestations, d'actions quasi quotidiennes pour demander des réformes démocratiques. On le sait, une crise qui a plombé l'économie du territoire. Le reportage de Philippe Dova.
Les manifestations massives, les scènes de violence, les saccages de boutiques et les incendies de stations de métro ternissent depuis 4 mois l'image de Hong Kong avec un impact direct sur tous les secteurs de l'économie de la ville, à commencer par l'hôtellerie. Luc Bolen, directeur général de l'hôtel Pullman Parkland Hong Kong.
Les manifestations à l'aéroport nous fait mal. Après le 11 et 12 août, on a eu une chute assez grave de 60% de taux de réservation. Et une fois que les gens ne sont pas certains qu'ils peuvent bien arriver ou sortir sans problème, c'est là où ça fait mal pour le tourisme.
Et ça fait même très mal. Salons et événements sont pour la plupart annulés. Les hordes de touristes chinois ont déserté la ville. Résultat, les commerces de luxe enregistrent une chute de 40 à 80% de leurs ventes. D'après une déclaration mercredi dernier de l'association des restaurateurs, une centaine de restaurants ont mis la clé sous la porte en septembre et plus de 2000 salariés se sont retrouvés au chômage.
Si ça continue encore, ça va être vraiment une crise économique et une crise sociale, surtout pour les ouvriers. C'est une agonie. On ne sait pas quand ça va finir. On n'a pas de vue sur la fin.
Et c'est la grande inconnue avec, quoi qu'il arrive, la certitude qu'il faudra de nombreux mois avant qu'Hong Kong ne retrouve le chemin de la prospérité. Hong Kong, Philippe Dova pour Radio Vatican.
Et ce matin, les protestations de Pékin après l'adoption par des députés américains d'une loi sur les droits de l'homme et la démocratie à Hong Kong, un texte brandissant la menace de suspendre le statut économique spécial accordé par Washington à l'ancienne colonie britannique. Aux Philippines, le gouvernement autorise le catéchisme dans les écoles publiques du primaire et du secondaire. L'enseignement de la religion catholique permettra d'éviter de nombreux problèmes en termes de prise de responsabilité, de gouvernance, de paix, d'ordre dans le pays, expliqué le député à l'origine de la proposition de loi. Dans le cas des élèves musulmans, il sera possible de remplacer la Bible par le Coran. Veille d'un sommet européen décisif à Bruxelles pour l'avenir des relations entre Londres et l'UE. Demain, un accord de divorce à l'amiable pourrait même être présenté aux États membres de l'UE. C'est encore possible, affirment les deux équipes de négociateurs. Londres aurait accepté de faire des concessions. Explication de Jean Jaffré.
Boris Johnson a fait une concession majeure. Les 6 comtés de la province d'Irlande du Nord resteraient de jure dans le Royaume-Uni, mais de facto au sein de l'Union européenne en ce qui concerne l'union douanière et le marché unique. Deux lignes rouges de Bruxelles pour d'une part préserver l'accord de paix de Belfast et d'autre part l'intégrité du marché unique. Boris Johnson est au pied du mur car il s'est engagé formellement à ce que le Royaume-Uni quitte l'Union européenne le 31 octobre. Faute d'un accord d'ici le 19 octobre, la loi Bain l'obligera en effet à envoyer une lettre aux autorités bruxelloises pour demander une nouvelle prolongation du Brexit. Afin d'éviter ce qu'il considère comme une reddition, le Premier ministre devra sans doute faire de nouvelles concessions, tout en s'efforçant de garder le soutien des 10 députés protestants nord-irlandais et de la majorité des Brexiteurs. Il espère aussi obtenir les voix d'une douzaine de députés travaillistes. À noter qu'aucune option, quitter sans accord, référendum ou annuler le Brexit, ne recueille un avis favorable d'une majorité des sondés. Long, Jean Jaffré, Radio Vatican.
Conteneurs en feu, charges policières, des scènes de guérilla urbaine peu habituelles ont eu lieu hier soir à Barcelone, la capitale catalane en Espagne, au deuxième jour de manifestations d'indépendantistes. Ils voient rouge après la condamnation de 9 de leurs leaders à des peines allant de 9 à 13 ans de prison. À Madrid, le gouvernement a dénoncé la violence généralisée imposée par une minorité à Barcelone, Tarragone, Gérone ou encore Lérida. En Grèce, la police a arrêté 12 personnes âgées de 15 à 34 ans, des hommes soupçonnés d'être impliqués dans une bagarre au couteau qui a fait 3 blessés lundi, provoqué surtout un départ de feu dans un camp de réfugiés surpeuplé se trouvant sur l'île de Samos. Ce camp accueille 5700 personnes pour 600 places. Les flammes ont partiellement détruit la structure d'accueil. Fin septembre déjà, un incendie avait ravagé le camp de réfugiés de Moria sur l'île de Lesbos. Au Vatican, la gendarmerie a un nouveau commandant. Gianluca Gozzi Broccoletti a été nommé par le pape hier pour succéder à Domenico Gianni, démissionnaire après la divulgation illicite dans la presse italienne d'une circulaire interne où figuraient les noms, les photos de 5 employés du Saint-Siège dont les bureaux ont été perquisitionnés début octobre dans le cadre d'une enquête sur de possibles opérations financières frauduleuses. Au Mozambique, 13 millions de citoyens étaient appelés aux urnes hier pour les élections générales organisées malgré un contexte sécuritaire très fragile dans le nord où sévit une guérilla islamiste. 5000 personnes n'ont d'ailleurs pas pu voter hier. Néanmoins, ces élections suscitent beaucoup d'espoir dans ce pays marqué par une longue guerre civile. Il survient alors qu'un accord de paix a été signé au mois d'août dernier entre le Frelimo au pouvoir et la Renamo, l'ancienne rébellion. Un accord qui demande encore à se concrétiser, nous explique Maria Mangeleze, directrice du Centre d'études interdisciplinaires de communication de Maputo, la capitale mozambicaine.
Le Frelimo s'y positionne comme le parti garant de la unité nationale. Le Frelimo, oui, veut la paix, mais il n'a pas donné toutes les garanties pour assurer la paix. La Renamo, il y a cette question aussi interne pour pouvoir se mettre d'accord avec tous ces militants, le côté militaire du parti, l'intellectuel de Renamo, il faut qu'ils se mettent d'accord.
Et vous dites que cet accord, pour l'instant, il n'est que dans le texte, que dans les mots, mais il n'y a pas encore de choses concrètes qui en sont ressorties?
Oui, c'est un peu difficile encore de dire qu'on va avoir une paix durable. On ne peut pas le dire maintenant. Et en plus, parce qu'on a eu l'accord de paix pour permettre la réalisation des élections. Sans l'accord de paix, on n'aurait pas les élections. Donc, c'est un accord conditionné. Il faut attendre après les résultats des élections et pour voir comment la Renamo, pendant les dernières 20 années, a toujours dénié les résultats des élections. On va voir si cette année, cette fois-ci, elle va accepter les résultats et comment on va le faire.
Des propos recueillis par Olivier Bonnel. Un couvre-feu a été instauré dans la région du Sahel, au nord du Burkina Faso, là où se trouve la mosquée de Salmossi, victime d'une attaque ayant fait 16 morts. Dans un message à la nation, le président du Burkina, Roch Kabore, a invité à préserver à tout prix le vivre ensemble, la cohésion sociale que leur ont légué, dit-il, leurs ancêtres et que ces attaques viennent à fragiliser, cherchant à déclencher, dit-il, un conflit confessionnel. Or, les religions sont des vecteurs de tolérance, a-t-il rappelé. Et puis enfin, au Venezuela, les évêques sont réunis à Caracas jusqu'à demain pour réfléchir aux orientations de leur pastorale, aux moyens de répondre davantage aux besoins de la population, au rôle de l'Église. Le Venezuela, qui possède les plus grandes réserves de pétrole au monde, traverse la plus grave crise économique de son histoire récente. Le président Maduro a annoncé lundi la troisième hausse de salaire de l'année. Et pourtant, le salaire minimum permet à peine d'acheter 4 kilos de viande. Large adoption du projet de révision des lois de bioéthique à l'Assemblée nationale hier en première lecture. Il a obtenu le feu vert des députés à 359 voix contre 114 lors d'un vote solennel. 80 heures ont été nécessaires pour examiner les 2600 amendements déposés lors de l'examen dans l'hémicycle. La mesure emblématique de ce texte de 32 articles est l'ouverture de la PMA aux couples de femmes, aux femmes célibataires. Il prévoit également une délicate réforme de la filiation, de l'accès aux origines, la recherche sur les cellules souches embryonnaires ou encore la conservation des ovocytes sans indication médicale. Le père Thierry Magnien, secrétaire général de la Conférence des évêques de France, analyse ce que ces débats nous disent dans notre société.
Ils disent que nous sommes d'abord dans « j'ai un désir, je ne fais de mal à personne, donc ça doit devenir un droit ». Et pris sous l'angle individuel, on peut comprendre les désirs. On peut comprendre le désir d'une femme seule, de femmes, d'avoir un enfant, enfin, tous ces désirs-là peuvent être tout à fait compréhensibles. Il y a un papier de cigarette d'épaisseur, si je puis dire, entre le désir et le droit, et avec très peu de regard sur les conséquences sur l'enfant, et avec parfois quelque chose qui frise le droit à l'enfant, et beaucoup plus que les droits de l'enfant.
Quelles pourraient être les limites d'une société qui se construirait sur le désir, sur l'exaltation du désir ?
Alors on est dans une situation très individualiste, sous fond de libéralisme économique, parce que le paradigme n'est pas que technique, il est techno-économique. À partir du moment où on a des technologies qui peuvent répondre à ces désirs, on a l'impression que c'est automatiquement ce qu'il faut pour progresser. Et ben là, je pense qu'on risque d'avoir des conséquences extrêmement néfastes.
Comment tenir compte dans nos sociétés de nouveaux modèles de famille en ayant à cœur la dignité de l'homme et en particulier de l'enfant ?
En éthique, c'est très important. Ce sont des situations sur lesquelles nous sommes invités à nous prononcer au niveau d'un jugement éthique. C'est surtout pas des personnes. Souvent, on me pose la question, mais alors, des enfants nés à l'étranger par GPA, vous n'allez pas les accueillir ? Mais bien sûr que si, qu'on va les accueillir. On va les accueillir comme tout enfant et sans restriction aucune. Il est très important de prendre soin de tous les types de familles dans la société, qui sont souvent le fruit d'évolutions et de contraintes de l'existence pas du tout faciles, donc on ne va pas culpabiliser les personnes qui ont déjà vécu des choses très difficiles dans leur existence. Une autre chose est d'en faire une loi générale qui normalise tout.
Lors des débats, n'a-t-on pas assisté à des tiraillements, voire des oppositions entre les notions de dignité et de liberté ? Or, ne sont-elles pas intimement liées ?
Et oui, je pense que on ne peut regarder ces questions de dignité, de liberté, que dans un cadre d'un bien commun, d'une société tout entière. Et c'est là le problème. Lorsqu'on ne part pour raisonner que de désirs individuels, on va regarder la liberté sous l'angle de l'individu, mais très peu de l'individu dans l'ensemble de la société. La dimension singulière de la personne, qui est sans doute beaucoup mieux écoutée aujourd'hui dans ses désirs que jadis, il faut le dire, parce que peut-être à certains moments, le balancier était plutôt du côté de l'universel et peu du singulier. Mais on a l'impression que ça s'est inversé et que du coup, ce n'est pas suffisamment équilibré pour que les lois soient vraiment pour le bien commun. C'est en tout cas ce que nous disons avec force. Encore une fois, sans du tout jeter quoi que ce soit comme discrimination sur quiconque.
Il y a un modèle bioéthique français qui place la dignité au centre, qui est à préserver.
Je le pense et souvent on me dit mais à quoi bon au niveau français puisque à l'étranger il suffit de franchir une frontière pour. Mais justement, c'est ça qui fait l'originalité et le fond humaniste profond de la tradition française. Il ne faudrait pas s'aligner tout simplement sur des poussées qui sont beaucoup plus techno-économiques, vraiment, qu'au service de l'ensemble de la société. C'est ce que nous pensons, mais l'important, c'est que ces choses-là puissent se dire très nettement, puissent s'étudier. Or, on a l'impression que lorsqu'on dit des choses comme ça, on nous regarde avec une certaine gentillesse éventuellement, mais qu'on n'est pas vraiment entendu, alors qu'il y a là une question de fond extrêmement importante.
Interrogé par Hélène Détombe, le père Thierry Magnin, secrétaire général de la Conférence des évêques de France, était ce matin l'invité de la rédaction. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, merci de votre écoute attentive, merci de votre fidélité. Rendez-vous à 13h pour un nouveau tour du monde, de l'actualité internationale et du Vatican. Excellente journée.